Ici Annie Quentin. Aujourd'hui, nous poursuivons notre entretien avec Isabelle Claire et Andréane Fortin.
Bienvenue à Facteur humain, le balado. Pensée et réalisée par la Faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université Laval, cette chaîne vous fait entrer dans les coulisses de la recherche et de la création pour y rencontrer des passionnés de la découverte. D'épisode en épisode, sur le mode de la vulgarisation, jetez un regard nouveau sur le monde avec nos invités, découvrez les questions qui animent leurs projets, voyez tout l'impact des lettres et des sciences humaines sur la société et le savoir.
Rebonjour à Isabelle Claire et Andréane Fortin, respectivement chercheurs et étudiantes à la maîtrise au département d'information et communication de l'Université Laval, et avec qui nous allons continuer à parler de rédactologie, discipline dont elles sont des spécialistes. Dans une première partie de notre entretien, Isabelle et Andréane, nous avons abordé la rédactologie, ses objets, ses approches, ses champs de pratique. Et nous avons suivi les parcours singuliers, oui, qui vous ont mené à choisir cette discipline. Nous allons maintenant poursuivre notre exploration et entrer dans les coulisses de vos recherches. Andréane, j'ai envie de commencer avec vous. Dites-nous, à quoi peut ressembler un projet de recherche en rédactologie?
En ce qui me concerne, je dirais que mon projet de maîtrise, il est à mi-chemin entre la rédactologie puis aussi le design d'interaction. Donc, on est dans le multidisciplinaire. Pour mettre un peu en contexte, j'ai l'impression qu'à l'origine, puis corrige-moi Isabelle si je me trompe, la rédactologie, elle relevait surtout de la linguistique. Puis on était aussi dans une approche qui était très centrée sur les genres d'écrits. Donc ça donnait par exemple des travaux qui étudiaient les caractéristiques idéales d'une lettre, d'un formulaire, d'un dépliant. Donc on était vraiment cantonné dans les genres d'écrits et dans le texte, les mots. Cette approche-là est encore évidemment très intéressante, mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on essaie d'élargir le cadre en rédactologie. Donc, on souhaite positionner le texte ou le document écrit dans un écosystème qui comprend plusieurs documents, puis qui représente mieux aussi nos pratiques de lecture dans la vraie vie. Par exemple, en ce qui concerne concrètement là, mon mémoire, j'ai cerné le sujet lors d'un contrat de recherche entre le groupe rédigé puis la SAAC, la Société de l'assurance automobile du Québec. Donc, notre équipe, elle avait pour tâche de simplifier les lettres administratives qu'on envoie aux citoyens. Puis, évidemment, on a été rapidement amené à se questionner sur ce qui entourait aussi les lettres, donc les relevés, les formulaires, les dépliants, les sites web, tout ce qu'on joignait à la communication avec la lettre, dans le fond. Puis là, on se demandait, par exemple, est-ce qu'on serait mieux d'éliminer toutes les pièces jointes puis de rapatrier ces informations-là dans le corps de la lettre? Ou au contraire, est-ce qu'on devrait raccourcir les lettres puis miser sur une meilleure répartition de l'information à travers les différentes pièces jointes? Donc, qu'est-ce que préfère le citoyen? Qu'est-ce qui favorise sa compréhension? Qu'est-ce qui rend le format de la communication plus efficace? Donc, c'est vraiment ça que mon mémoire essaie d'éclaircir. C'est un problème à la base qui est très pratique, donc c'est une recherche qui est appliquée, mais est-ce qu'on peut trouver une réponse théorique dans les études, par exemple, sur la compréhension en lecture, sur l'interaction avec les documents multiples? C'est ça qu'on essaie de voir. Puis, au final, quand je vais avoir terminé ce projet-là, qui est quand même assez diversifié puis ambitieux, là, mais quand je vais l'avoir terminé, on va avoir des données probantes, dans le fond, sur peut-être pas probantes, mais des données qui vont nous aider là, à mieux répondre aux besoins réels des citoyens en matière de communication dans leurs lettres.
Concrètement, là, justement, vous dites là, avec les utilisateurs, est-ce que vous demandez justement à des citoyens de faire ces tests-là, de lire les lettres? Comment ça fonctionne concrètement pour arriver justement à ces données-là par la suite au constat que vous faites?
Oui, bien, c'est sûr qu'on doit tester avec des vrais utilisateurs, toujours. Des utilisateurs qui sont représentatifs de différents publics, mais aussi de faibles lecteurs. Parce que cette clientèle-là, on ne prend pas souvent le temps de la sonder, puis de voir de quelle manière elle comprend les documents publics. Donc, dans le cadre de mon projet, je suis allée rencontrer dans divers centres de formation aux adultes de la Ville de Québec des gens qui n'ont pas de diplôme d'études secondaires, donc qui sont, sur le plan statistique, considérés pour différentes raisons comme des faibles lecteurs. J'ai mené des entretiens avec trois groupes différents pour tester trois formats différents de communication. Donc, je leur ai fait lire des lettres, des formulaires, des sites web, des relevés. Puis là, je variais à chaque fois le type de pièce jointe que je leur présentais. Puis après chaque expérience qui était filmée, évidemment, pour pouvoir bien étudier de quelle façon ils interagissent avec les documents, combien de temps ça leur prend, puis d'autres paramètres comme ça. Après, ben, on complétait avec un entretien où là, je mesurais la compréhension qu'ils avaient du sujet, leur appréciation aussi du format de la communication, puis le tout là, afin d'évaluer c'était quoi le format le plus efficace, en fait, auprès de ces gens-là.
Puis ce qui est extraordinaire dans ce que tu fais, c'est qu'en fait, c'est que ça part d'un problème qui a été vraiment noté pendant le contrat de recherche. On avait constamment ce problème-là parce qu'il y a beaucoup de lettres qui sont accompagnées à l'heure actuelle de dépliants. À cause du virage numérique de l'État, on a tendance à vouloir envoyer tout le monde sur le web. Mais on sait qu'il y a une partie de la population qui n'y va pas ou que si elle y va, a de la difficulté à trouver l'information ou à se déplacer dans le web. Donc, c'était hyper important de savoir si est-ce que c'est une bonne chose de supprimer tous les dépliants? Est-ce que c'est une bonne chose d'enlever cette autre possibilité aux gens? Parce que le risque qu'on court, c'est qu'on exclut une partie de la population, une frange de la population. À l'heure actuelle, c'est surtout les personnes plus âgées, mais encore, on se rend compte que les plus jeunes ont aussi de la difficulté, et c'est ça qui va être intéressant dans les résultats de la recherche d'Andréane, c'est qu'on va être surprise, je pense, parce que ce sont des jeunes qu'elle a rencontrés et ils ont l'air d'avoir eu pas mal de difficultés. Donc, ça va être vraiment des renseignements qui vont servir d'une part l'organisme en soi, mais aussi l'ensemble des autres organismes qui ont tous à se poser cette question-là. Et en sortant des articles, en allant à des colloques, mais on fait avancer les connaissances, en fait, sur l'écosystème informationnel et ce à quoi on doit penser quand on écrit.
Et vous, Isabelle, est-ce que c'est le même type de projet que vous menez au groupe de recherche rédigé dont vous êtes la directrice?
On fait toutes sortes d'études parce qu'en fait, comme la rédactologie, elle repose sur les cinq axes. En fait, on a forcément comme un acte de communication, on a un rédacteur, à l'autre bout de la chaîne, on a le lecteur. Au milieu, on a le produit, le document. Puis de chaque côté, en effet miroir, on a un processus de rédaction, comme on a un processus de lecture. Donc, on a des étudiantes ou certains chercheurs qui vont travailler sur le processus de lecture, qui vont voir comment les gens comprennent. Il y a des gens qui vont travailler sur le document lui-même pour l'analyser. Il y a des gens qui vont vouloir connaître davantage quelqu'un qui pratique la rédaction. Alors, on va observer, par exemple, des réviseurs professionnels dans un milieu d'édition pour voir comment ils appréhendent le texte, comment ils corrigent, est-ce qu'ils font plutôt des déplacements, plutôt des coupures, plutôt des remplacements, et comment ils les justifient. J'ai une étudiante, par exemple, qui travaille actuellement sur le clavardage, qui fait son mémoire de maîtrise sur le clavardage comme service à la clientèle. On ne sait pas aujourd'hui qui sont les gens qui clavardent. On ne sait pas quel genre d'écrit. C'est à mi-chemin entre l'oral et l'écrit. Il faut qu'on respecte l'image de marque de la compagnie pour laquelle on travaille. Mais en même temps, là, dans le cas de Roxane, celle qui fait ce travail-là, elle travaille uniquement avec les gens qui ne sont pas les robots. Donc, des clavardeurs humains qui répondent à des plaintes, qui répondent à des questions, Et elle est allée donc faire, elle est allée chercher des gens. Encore là, ça répond à la question de Mélanie tout à l'heure. Elle est allée rencontrer des gens à travers des grandes entreprises comme Hydro-Québec, le RTC, Simons. Et elle veut absolument savoir qui sont ces gens-là, comment ils sont formés, est-ce qu'ils ont des guides d'écriture, est-ce qu'ils ont des directives de la part de l'administration sur le ton à utiliser, le style à utiliser. Donc, elle veut faire un portrait qui éclairera les gens, qui donnera une idée aussi de ces différents points de contact. Les gens, ils arrivent sur le chat, mais est-ce qu'ils arrivent d'abord par le téléphone, puis ils se retournent par là, ou est-ce qu'ils rentrent par quel bout ils rentrent? Donc, tous ces points de contact sont étudiés toujours dans cette idée d'un peu d'écosystème informationnel. Puis elle fait un travail très exploratoire parce qu'il y a très peu d'écrits là-dessus, sur le travail des rédacteurs. Donc, ça peut être vraiment un travail sur la personne qui écrit, sur la personne qui lit, sur le document lui-même, sur le processus de rédaction ou sur le processus de lecture. Donc, en fait, c'est très large. Mais c'est toujours dans la même visée. Qu'est-ce qui permet de rendre davantage compréhensible un écrit pour le lecteur? Donc, le rédacteur professionnel, il est vraiment une interface entre un client qui lui impose un mandat et un sujet et un destinataire pour lequel il doit prendre la défense, duquel il doit prendre la défense, parce qu'en fait, souvent, le client, l'employeur qui demande d'écrire, il veut passer ses idées, mais il ne sait pas très bien comment est capable de les recevoir. Alors donc, nous, le rédacteur, on est vraiment une interface. On doit vraiment essayer de convaincre le client ou l'employeur du bien fondé des recommandations qu'on fait en disant que c'est comme ça qu'on va comprendre ça. Ça, c'est pas compréhensible.
OK. Puis ce qui est intéressant de ce que je comprends, c'est pas juste, par exemple, des lettres administratives. C'est tout type d'écrit d'enfant. Autant le clavardage, vous avez dit, mais est-ce que ça peut toucher des communications plus de la promotion, du marketing? Est-ce que vous allez aussi dans ce type d'écrit-là?
On peut aller dans beaucoup de types d'écrits. Pour l'instant, on est beaucoup plus dans les écrits informatifs. Par exemple, maintenant, la grande vague avec Québec.ca, qui est en train de prendre, en fait, tous les sites informationnels de tous les ministères et des organismes, puis tout transite par Québec.ca, tout va être réécrit de cette façon-là. Là, on est vraiment dans les sites informationnels et non pas transactionnels, et on n'est pas dans la pub, on n'est pas dans la promotion, on est vraiment dans quelque chose. Donc là, on est plus là-dessus. Puis le groupe Rédigé, il a été créé en 97, c'est quand même, ça fait déjà un petit bout de temps, et depuis le début du grand mouvement sur la simplification des communications, l'administration publique est venue nous chercher. Et eux, au départ, c'était vraiment les communications destinées aux citoyens qui les préoccupaient surtout. Donc, c'était vraiment parce que tout ce qui est à l'interne, ils n'en avaient pas besoin. Ce qui était fait par les directions des com, comme les dépliants, les communiqués de presse, ce n'était pas ça non plus, parce que ça, c'est des spécialistes qui les faisaient. Ce qui les intéressait, c'était qu'on aide davantage les rédacteurs fonctionnels à écrire aux citoyens. Donc, surtout les lettres, les pages web, les formulaires transactionnels, donc plutôt des écrits, je dirais, davantage administratifs pour l'instant.
Parfait, merci. Non, ça me met vraiment une tête, là, vraiment, du type de document, là, d'écrit que vous étudiez davantage dans le groupe Rédigé. C'est intéressant.
Former l'administration publique à l'écriture, c'est déjà tout un contrat, mais j'imagine qu'il y a beaucoup d'autres chantiers potentiels. Quelles sont les voies de développement de la rédactologie?
Eh bien, en fait, on peut dire que c'est quand même, c'est tout jeune, c'est une petite discipline toute jeune, mais elle a quand même déjà pas mal d'assises. Elle a quand même déjà, elle existe. Au départ, on se demandait si elle finirait par prendre racine, mais elle a pris racine dans le sens qu'on a, par exemple, au Québec, on a une société québécoise de la rédaction professionnelle qui font, dans cette société-là, on fait passer des examens d'agrément pour que les gens puissent être reconnus comme rédacteurs agréés, en fait, comme les notaires, etc. Mais enfin, ça les aide un petit peu à sortir du lot. On a une revue scientifique, une revue savante canadienne qui s'appelle, qui a un long nom en anglais, mais qui s'appelle Rédactologie en français. Là, qu'on a vraiment repris Céline Baudet et moi en main cette année, mais elle a existé sous le nom Technostyle il y a de ça 10 ans, 15 ans. Donc, on a toujours écrit autour de la rédaction technique ou de la rédaction professionnelle. En France, on nous a suivis. C'est le modèle québécois qui a été implanté en France à l'Université d'Aix-Marseille. Eux, ils ont monté une maîtrise parce qu'en fait, le côté pratique des choses se fait toujours au deuxième cycle. Les licences sont théoriques. Au deuxième cycle, on fait du pratique, donc c'est un peu différent d'ici. Mais donc, ils ont monté une maîtrise en rédaction professionnelle calquée sur le modèle de ce qu'on fait ici. On a d'ailleurs un protocole de signé d'entente pour la mobilité étudiante entre Laval et Aix. On monte un gros colloque l'automne prochain en rédactologie à Laval pour le mois d'octobre. Alors, on le pense double. Si les gens peuvent venir, tant mieux. S'ils ne peuvent pas venir, ça va se faire à distance, mais on le fera de toute façon parce que les actes vont être publiés. Et il y a quand même un groupe de... On est peu nombreux, mais les rédactologues sont très engagés. En français, on ne voit pas tout à fait la rédactologie de la même façon que le voient les anglophones, qui sont beaucoup autour des writing centers. Ils sont beaucoup autour de l'écriture scolaire, de l'écriture académique, comme ils disent. Donc, ils aident à écrire dans les cursus, ce qu'ils disent. Tandis que nous, on est vraiment davantage dans l'écriture utilitaire, l'utilitaire externe. Et puis maintenant, en France, les chercheurs commencent à travailler aussi sur l'écriture davantage universitaire. Donc, j'ai l'impression que ça c'est des vases communicants, puis qu'on va en arriver à élargir le champ. Mais donc, en fait, il se publie pas mal de choses, des livres en rédactologie. Il y en a quand même à peu près tous les ans ou tous les deux ans qui sortent. Donc, en fait, c'est assez dynamique et je dirais qu'on joue à la fois sur l'enseignement, les manuels pratiques et les ouvrages plus théoriques. Donc, en fait, on touche les trois terrains. La recherche nourrit la pratique, la pratique nourrit la recherche. Et puis, les manuels sont nécessaires. Ils sont vraiment la résultante de l'ensemble des données qu'on récupère quand on fait ces contrats de recherche pour les différents ministères et organismes.
Isabelle Claire, Andréane Fortin, merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous avoir mieux fait connaître la rédactologie.
Ben, merci à vous.
Facteur humain est la chaîne officielle de balado-diffusion de la Faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université Laval. Pour plus de balados, visitez le flsh.ulaval.ca/web/diffusion.